Retrouvez dans votre émission À table, la recette du chef à midi et demi.
Direction la magnifique Côte d'Albâtre cette semaine, tendance ouest, c'est à Velette-sur-Mer, chez Nona, et on retrouve Simon Ferniaud sur sa terrasse vue mer. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors Simon, depuis quand êtes-vous à la tête du restaurant ?
Eh bien, depuis le début, mais ce début est assez récent puisque nous avons ouvert en juillet, le 1er juillet l'année dernière. Donc ça fait à peine un an.
Ah, c'est effectivement tout récent. Alors parlez-nous un petit peu de l'établissement, son ambiance. On est sur la digue Jean Coruble. La vue sur mer, on le disait, elle est unique. Hein.
Oui, vraiment, cette digue qui permet de manger quasiment sur l'eau, c'est merveilleux. L'ambiance du restaurant, c'est une ambiance résolument familiale. La trattoria, dans la tradition italienne, c'est un restaurant familial, en fait. Et donc, nous avons voulu faire une cuisine italienne, parce qu'il n'y en avait pas à Velette, et que ça nous semblait important de proposer une offre qui n'existait pas. Et puis, les autres raisons, c'est que tout le monde aime la cuisine italienne, qui est une cuisine avec une note éminemment conviviale, c'est du plaisir partagé, c'est de la cuisine simple, mais de la cuisine excellente, c'est ça notre maître mot.
Et alors aujourd'hui, entre la salle et les deux terrasses, combien de couverts est-ce que vous pouvez accueillir ?
Alors en tout, 150 couverts, 50 à l'intérieur, 30 en terrasse et 70, jusqu'à 70 sur la digue devant la mer en fonction de la météo. Nous avons une terrasse qui est abritée par des paravents en verre, donc ça permet aussi d'être un peu à l'abri. Quand vous savez comment c'est en Normandie, il y a souvent un peu de vent et donc ça permet de dîner également dehors mais à l'abri.
Ouais, surtout quand on est en front de mer, ça peut parfois souffler un petit peu plus que dans les terres, c'est sûr. Les produits que vous utilisez sont eux-mêmes italiens. Vous avez pu garder justement des producteurs transalpins pour travailler avec eux ?
Oui, c'est très important pour nous. La qualité des produits, c'est la première des préoccupations. Nous faisons venir toutes les semaines par deux ou trois importateurs italiens de produits italiens, les produits en direct de la péninsule italienne qui arrivent chaque mardi et mercredi au restaurant. Les fromages, les charcuteries. Pour ce qui est du reste des produits, nous concentrons sur des approvisionnements locaux, en particulier les légumes qui sont tous sourcés chez un maraîcher, puisque la vallée de la Dourdan qui borde Velette est une région maraîchère par excellence. Et puis des produits locaux pour la boucherie, ce sont des produits qui viennent de Fécamp, pour tous les produits laitiers également de la région. Et puis la plupart des produits laitiers, la plupart des légumes et même la plupart des fruits, si ce n'est tous les fruits, légumes et laitiers, sont des produits bio. Quant aux produits italiens, ce sont des produits d'origine, mais qui ne sont pas bio.
Bon, donc ce qui doit être italien vient d'Italie, et ce qui peut être acheté et ce qui peut venir de Normandie vient de Normandie, donc.
Exactement ça, vous avez très bien résumé.
Le budget moyen pour manger chez vous, tiens, sur une formule midi, par exemple.
Alors, sur une formule midi, on a une formule à 14,50 €. Et puis, le ticket moyen général, c'est en dessous de 30 €, c'est aux alentours de 26-27 €. Donc ça reste des budgets de restaurants raisonnables, pour avoir du plaisir à partager un repas ensemble.
Bon, et quand est-ce qu'on peut venir manger chez vous ? C'est toute la semaine, c'est midi et soir, comment ça se passe le service ?
Nous sommes fermés lundi-mardi, et puis à partir du 1er juillet, pendant les 2 mois et demi de la saison, nous serons ouverts 6 jours sur 7, donc nous ne fermerons que le mardi, et nous serons ouverts donc 6 jours sur 7, sinon on est fermé lundi-mardi, et hormis ça, c'est tous les jours de midi à 23 h.
Simon, la cuisine chez vous, c'est de famille. Hein, votre frère n'est autre que Vincent Ferniaud, qu'on connaît sur les plateaux de France Télévisions notamment, et avec qui vous aviez déjà lancé, vous, une gamme de bocaux dans les trains, notamment des bocaux bio.
Oui, c'est vrai. Nous avions, avec Vincent, créé cette marque bocaux qui était de la restauration rapide de chefs étoilés. Là encore, la préoccupation, c'est de donner au plus grand nombre, à des budgets abordables, la possibilité de bien manger et de se faire plaisir à table. C'est certainement ce qui nous réunit dans la famille, c'est l'envie de se faire plaisir à table.
Il a pu peut-être travailler avec vous sur l'élaboration de la carte, l'univers du restaurant. Est-ce qu'il y a sa petite patte aussi qui est là à lui ?
Ouais, écoutez, il y a l'esprit de notre famille, celui de mon père qui nous a tous entraînés dans cet amour de la gastronomie. Et puis Vincent est venu bien sûr dîner, on a parlé avec lui des approvisionnements. Sa spécialité, vous le savez, ce sont les produits et les produits d'origine.
C'est vrai.
Donc j'ai pu avoir, en tout cas grâce à lui, quelques contacts complémentaires et puis une réflexion commune sur ce qui devait venir et d'où ça devait venir.
Alors, on va pouvoir aller les découvrir ensemble, ces produits, justement. Merci, Simon, on le rappelle. Nona, c'est sur la digue Jean Coruble à Velette-sur-Mer. Et tout de suite, on file en cuisine.
À table, la recette du chef.
Je vous emmène en Italie cette semaine, sur Tendance Ouest, à table et sur la Côte d'Albâtre, au restaurant Nona à Velette-sur-Mer. Et nous sommes avec le chef Simon Ferniaud. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors Simon, par où est-ce qu'on commence notre périple transalpin cette semaine ?
Alors, pour commencer, une entrée, puisque c'est le début d'un repas. Et Pierre-Charles, pour cette première recette, c'est une grande salade italienne, donc un plat d'été, frais et accessible à tous.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette salade ?
Alors, pour 4 personnes, il faudra un paquet de roquettes ou 125 grammes de roquettes fraîches, cette salade un peu goûteuse, au goût un petit peu poivré, 4 tranches de jambon italien aux herbes qu'on peut retrouver dans n'importe quel supermarché, un pot de tomates séchées ou de tomates confites, ou puisque nous arrivons en été, des tomates cerises fraîches, 2 fois 125 grammes ou une fois 250 grammes de mozzarella de bufala, j'insiste, c'est la meilleure, c'est celle qui est cette mozzarella de bufflone avec un peu plus de goût, là aussi qu'on peut trouver n'importe où, 125 grammes de haricots verts ou des cœurs d'artichaut à l'huile au choix, en fonction de ses goûts, 50 grammes de copeaux de parmesan, ou de grana padano, qui est ce fromage qui ressemble comme un frère au parmesan, mais qui est un petit peu moins cher, et puis des olives noires dénoyautées, et puis pour décorer, soit du persil plat, soit du basilic qu'on découpera sur la salade pour terminer. Et ensuite, pour l'assaisonnement, un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, du poivre, du sel, c'est tout. La salade est extrêmement simple à préparer, donc on prépare la roquette qu'on va laver et égoutter, et puis on va la répartir soit on met ça dans un saladier commun, soit on prépare déjà les assiettes pour chacun. Donc la roquette, au-dessus de la roquette, on va disposer les tranches de jambon, une tranche par assiette, ou les 4 tranches qu'on va découper en deux, et qu'on va faire un petit peu en chiffonnade. On coupe les mozzarella par moitié, et on les dispose également sur la salade. Chacun est libre de composer comme il veut. Idem pour les tomates séchées ou les tomates confites ou les tomates cerises qu'on va couper en deux parce que c'est plus joli. Et puis les haricots verts ou les cœurs d'artichaut, de la même façon, les haricots verts sont cuits ce qu'on appelle à l'anglais, c'est-à-dire juste dans 5 minutes dans l'eau bouillante et ensuite refroidis dans l'eau glacée. Et les cœurs d'artichaut, s'ils sont à l'huile, on va pouvoir les sortir du bocal, les égoutter, les couper par moitié. Tout ça disposé sur la salade. On termine en parsemant de copeaux de parmesan, avec autour les olives noires, et puis on va ciseler le persil plat ou les feuilles de basilic avec lesquelles on va décorer l'assiette. On dispose de l'assaisonnement dessus et on sert, et c'est tout.
Alors vous nous l'avez dit, la base de cette salade, c'est la roquette. Est-ce qu'il y a une histoire particulière entre la roquette et l'Italie ? J'ai l'impression qu'on la retrouve dans beaucoup de plats, que ce soit en salade ou bien sur les pizzas en accompagnement parfois.
C'est vrai, la roquette, c'est peut-être une des salades italiennes par essence. Il y en a d'autres, en particulier dans le nord de l'Italie, ce qu'on appelle la trévise, qui est une salade amère. Donc l'amertume aussi, c'est l'Italie. Il y a une grande histoire entre le goût amer et les Italiens. Et puis cette roquette, qui est une salade avec une personnalité, une couleur de vert intense et un goût très poivré qui lui donne tout son caractère. C'est aussi une des salades typiques de l'Italie qu'on retrouve, comme vous le disiez, soit dans des accompagnements de salade, soit en décoration ou en complément de garniture sur des pizzas ou même dans des pâtes. Les pâtes à la rucola, puisque c'est le nom de la roquette en Italie, sont célèbres.
Mais écoutez, en une seule recette, vous me confirmez, Simon, que j'adore la cuisine italienne. Merci à vous. Le restaurant Nona, Dick Jean Corrube, à Velette-sur-Mer. Nous, on se retrouve demain, Simon, pour une nouvelle recette.
Merci Pierre-Charles, à demain.
Eh bien, c'est réservé. En tout cas, midi et demi, Tendance Ouest et tendanceouest.com pour nous retrouver. L'Italie s'invite dans votre radio. Cette semaine, nous sommes chez Nona, restaurant de Velette-sur-Mer en Seine-Maritime, avec Simon Ferniaud, notre chef cette semaine. Simon, qu'est-ce que vous nous avez réservé ce midi ?
Bonjour Pierre-Charles. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, nous voulons d'abord faire des recettes simples, accessibles à tous et pour autant délicieuses. Donc aujourd'hui, les spaghettis Portofino, un petit secret de cette station balnéaire extrêmement réputée de la région des Cinque Terre, cette station très huppée avec des spaghettis ultra simples et absolument délicieuses. Donc pour 4 personnes, il faudra, pour 4 ou pour plus d'ailleurs, je vais donner la recette pour une personne et chacun fera comme il veut. Donc il faut 120 à 140 grammes de spaghettis par personne. Il faut de la tomate, ce qu'on appelle la passata, c'est-à-dire de la pulpe de tomate, que vous pouvez trouver absolument n'importe où. Du pesto, tout le monde connaît ce pesto qui s'appelle Genovese, qui est ce mélange d'huile d'olive, de basilic, de pignon et de fromage parmesan, qu'on peut là aussi soit faire soi-même, soit trouver dans un supermarché en pot déjà préparé. Du poivre, des herbes pour décorer, du basilic ciselé, et c'est tout. Cette recette, c'est donc un secret de la bête Portofino. C'est un mélange de sauce tomate et de pesto. Ça peut être assez inattendu, mais au résultat, c'est absolument délicieux. Donc, très simplement, on cuit les spaghettis, on regarde sur le paquet quel est le temps de cuisson, surtout ne pas trop les cuire, plutôt les cuire une minute et demie de moins que ce qui est conseillé, je vous expliquerai pourquoi après. Quand elles sont cuites, on les égoutte, on les refroidit, c'est très important, on met un peu d'eau froide dessus pour arrêter la cuisson, et puis on va les laisser dans un saladier avec un peu d'huile pour qu'elles ne collent pas entre elles. On met ça donc de côté, on réserve le temps de faire la suite. Le secret, c'est de conserver un verre de l'eau de cuisson des pâtes qui contient l'amidon de la cuisson et on s'en servira pour lier la recette à la fin. Donc dans une poêle, vous faites revenir la pulpe de tomate en fonction du nombre de personnes, la pulpe de tomate avec un peu de sel et d'huile d'olive, vous faites bien bouilloter tout ça, vous ajoutez le pesto et vous mélangez, et puis sur ce feu vif, vous allez déverser les pâtes dans la sauce. Les Italiens disent toujours c'est les pâtes dans la sauce et pas la sauce dans les pâtes, ce qu'on fait trop souvent. Il paraît que ça fait une énorme différence. Et puis, l'eau de cuisson, vous laissez chauffer, vous laissez tout ça se lier ensemble et vous servez chaud avec un petit peu de basilic ciselé dessus. C'est tout. Aussi simple que ça.
Et si on veut tenter de faire son propre pesto, est-ce qu'il y a une astuce? Est-ce qu'il y a un secret à surtout ne pas oublier?
Oui, le pesto, c'est assez simple. On prend du basilic en feuilles, on prend de l'huile d'olive, on prend du parmesan et on prend des pignons de pin dans des proportions que vous trouverez sur n'importe quel site internet. Le secret avec le pesto, c'est comme c'est dans un bol mixeur, on va broyer tout ça ensemble dans un mixeur. Il ne faut pas le laisser tourner trop longtemps parce que si ça tourne trop longtemps, ça chauffe. Et si ça chauffe, ça va brûler le basilic et brûler la recette en quelque sorte. Et donc on va perdre cette fraîcheur et ce goût très frais du basilic fraîchement broyé. Donc le secret du pesto, c'est de ne pas le laisser tourner trop longtemps. Essayez qu'il soit moelleux et qu'il soit pâteux, mais de pas le brûler. Voilà.
Donc, et on retient bien, les pâtes dans la sauce, c'est comme le lait sur les céréales ou les céréales dans le lait. Voilà, mais là, en tout cas, la coutume veut de mettre les pâtes sur la sauce.
Très important.
Merci à vous, Simon. Demain, on part sur un risotto de printemps aux orties. Soyez là, en tout cas, Tendance Ouest, midi et demi, et les recettes en podcast sur tendanceouest.com et toutes les bonnes plateformes d'écoute, évidemment.
À table, la recette du chef.
À table en Italie jusqu'à vendredi, pizza, pasta, tiramisu, ça se passe chez Nona à Velette-sur-Mer. Simon Fernio, votre choix de recette ce midi?
Bonjour Pierre Salle, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à tout le monde de faire un risotto. Un bon risotto, c'est assez classique, il faut juste pas oublier 2-3 étapes.
Il faut surtout de la patience aussi, j'ai l'impression.
Il faut, c'est pas long, mais il faut rester à côté. Voilà, on n'a pas le droit d'être distrait pendant qu'on...
C'est ça. Voilà. Alors on vous écoute, Simon, allez-y.
Donc aujourd'hui, nous vous proposons un risotto de printemps. C'est la fin du printemps, mais nous avons encore beaucoup de légumes en Normandie. Et puisque nous sommes normands, nous avons choisi de faire un risotto aux orties. Tout le monde a des orties dans les champs ou sur le bord des routes à côté de chez lui. Donc extrêmement simple, ça ne coûte rien, c'est distrayant, on sort, on va cueillir. Voilà la recette. Pour 4 personnes ou 5 personnes, 300 grammes de riz. Attention, le riz à risotto est un riz spécial. Vous irez dans vos magasins favoris. On va choisir soit du riz Carnaroli ou du riz Arborio, qui est un riz rond qui vient de la vallée du Pô, puisque le risotto s'est fait avec un riz qui est cultivé en Italie. Donc dans la vallée du Pô, celle qui coule de Milan jusqu'à la côte adriatique. Un demi-oignon moyen haché, 1 décilitre ou 1 demi-verre de vin blanc sec de préférence, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du bouillon de légumes, puisque là nous sommes dans un risotto de légumes, donc on va dire 1,5 litre, mais on en mettra autant que nécessaire. Et puis pour le pesto d'ortie, on va avoir besoin de 200 grammes d'ortie. Là on va couper les sommités des orties, on ne prend pas l'ortie entière, on coupe le haut des orties, la partie la plus tendre, 80 grammes d'épinards en branche frais ou congelés, peu importe, 40 grammes d'amandes blanches non salées et puis une gousse d'ail frais. Il faudra aussi 100 grammes de beurre et 150 grammes de parmesan râpé. La recette est la suivante. On va donc cueillir les orties. Ensuite, on va les laisser tremper dans de l'eau pendant la nuit. On va faire blanchir ces orties, donc les mettre dans de l'eau bouillante pendant une minute avec les épinards s'ils sont frais ou pas, s'ils sont congelés, ils ont déjà été blanchis. Et donc, on va faire le pesto d'orties. Donc, pour faire ce pesto d'ortie, on va prendre ces orties qui ont été blanchies, ces épinards, tout ça égoutté. On va les mettre dans un bol mixeur ou un blender avec l'ail, la gousse d'ail, les amandes, les 40 grammes d'amandes, 50 grammes du parmesan, et on va faire tourner tout ça avec de l'huile d'olive jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène. Donc ça va faire une pâte assez crémeuse, homogène, et donc on va doser l'huile d'olive jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Une fois qu'on obtient ce pesto, on le met de côté, il est prêt pour la recette, et on fait le risotto. On hache donc un demi-oignon qu'on va faire revenir dans une poêle ou dans une casserole. Les Italiens font souvent le risotto dans une poêle, avec le riz. Donc on fait d'abord revenir l'oignon dans l'huile sans le colorer. Quand il est un petit peu revenu et qu'il est un peu translucide, on rajoute le riz jusqu'à ce qu'on appelle qu'il se nacre, c'est-à-dire que vous verrez que les grains de riz, eux aussi, deviennent un peu translucides quand on les tourne dans l'huile et l'oignon. Quand ça c'est fait, on va déglacer, donc jeter le demi-verre de vin blanc qui va faire beaucoup de vapeur et c'est très chouette, et que tout ça, laisser s'évaporer le vin blanc qu'on a jeté dans cette poêle ou dans cette casserole. Et ensuite, progressivement, toujours sous un feu très doux, on va ajouter le bouillon qu'on aura préalablement fait chauffer, pas de bouillon froid, le bouillon a été chauffé auparavant, et on va le mettre louche par louche, sans cesser de tourner, et c'est là que vous disiez au début qu'il faut être patient. Le riz cuit entre 20 et 30 minutes, donc on rajoute des louches de bouillon jusqu'à ce que le riz qui va gonfler en se gorgeant de bouillon absorbe le bouillon progressivement. On rajoute du bouillon au fur et à mesure pour nourrir le riz, et on va pouvoir rajouter en même temps et alternativement ce pesto d'ortie que nous avons préparé, donc un peu de bouillon, un peu de pesto d'ortie, jusqu'à ce qu'au bout de 20-25 minutes, ce riz soit cuit, on peut le goûter, le grain est moelleux, il est gorgé de bouillon, donc ça fait quelque chose de très moelleux sous la dent. Quand il est cuit et qu'il a un bel aspect moelleux, et je tiens à préciser qu'il doit rester légèrement humide, hein, il ne faut pas que le risotto soit sec, on peut le faire plus ou moins humide en fonction de ses goûts, on arrête le feu à ce moment-là, et on va faire l'opération que les Italiens ne ratent jamais et qui est une opération indispensable et particulière, qui s'appelle mantecature, c'est-à-dire le crémage du risotto. On va donc rajouter les 100 grammes de beurre et les 50 grammes de parmesan qui nous restent sur le dessus du riz. On couvre avec un couvercle, on le laisse 3 minutes. On ouvre, on soulève après le couvercle, on mélange tout et on sert immédiatement très chaud, puisque le risotto a cette qualité de se garder très chaud très longtemps.
C'est ça qui va permettre de lier un peu les grains de riz entre eux, c'est ça ?
Exactement, c'est ça qui va donner cet aspect crémeux au risotto qui est si agréable et si moelleux sous la dent.
L'idée au niveau de l'ajout des louches de bouillon successives, c'est d'ajouter une louche, d'attendre peut-être que ce bouillon réduise totalement pour en remettre une nouvelle et ainsi de suite, c'est ça ?
Oui, absolument, merci de reposer la question. C'est très important ce processus parce que c'est un processus progressif. On mouille le riz avec du bouillon et il va progressivement l'absorber. Vous allez voir le riz gonfler, donc les grains de riz vont devenir plus importants, plus gros, et il va peu à peu devenir moelleux et faire une espèce de liaison dans cette casserole. Et c'est ça qui va faire tout ce liant moelleux du risotto qui fait sa qualité et le plaisir que nous avons à le manger.
Et bien voilà, maintenant nous avons tous les secrets des véritables risottos italiens pour découvrir l'univers et la carte de chez Nona. Rendez-vous sur la digue Jean Coruble à Velette-sur-Mer du mercredi au dimanche de midi à 23h pour le service. Tendance Ouest en direct des cuisines de Simon Ferniaud à Velette-sur-Mer. Nous sommes chez Nona, restaurant de spécialités italiennes sur la digue, la terrasse et bien entendu front de mer. Simon, ce midi, qu'est-ce qu'on cuisine ?
Eh bien, pour terminer la semaine, pas encore tout à fait, mais pour ces deux derniers jours, nous allons faire des desserts. Fin de semaine, fin du repas, nous embrayons sur les desserts. Comme toujours, j'ai essayé de vous proposer des recettes extrêmement simples, puisque chez Nona, c'est de la cuisine simple, avec des produits de qualité, pour prendre du plaisir à manger des plats italiens que nous aimons. Donc aujourd'hui, le dessert italien le plus connu, le tiramisu, celui-là de Nona, dont je vais vous donner la recette pour essayer de faire un tiramisu délicieux. Le tiramisu est le dessert que nous vendons le plus chez Nona, et nous savons qu'il y a des clients qui viennent exprès pour ça. Donc j'imagine qu'il est bon, et je vais essayer de vous faire partager. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pourrez toujours venir le manger chez nous.
Voilà, il n'y aura plus que ça à faire, mais c'est toujours un plaisir d'avoir des plats signatures dans l'émission, en tout cas.
Pour un grand tiramisu ou 8 tiramisu individuels que vous pourrez mettre dans des ramequins ou des petits bols, il faudra 2 œufs, 75 g de sucre en poudre, 250 g de mascarpone. Le mascarpone, c'est ce fromage italien assez gras et frais que vous trouvez en pot dans n'importe quel supermarché. 100 grammes de biscuits cuillères ou de boudoir, nous prenons des biscuits que nous faisons venir d'Italie qui sont à peu près l'équivalent, qui s'appellent les Savoyardi, qui sont les biscuits traditionnels du tiramisu, et vous obtiendrez un résultat très proche avec des biscuits que vous trouverez à côté de chez vous. 3 cafés expresso forts, c'est-à-dire que vous faites des vrais expresso, et puis du cacao en poudre, ça c'est pour terminer. Le déroulé de la recette est le suivant. Vous commencez par préparer votre café. Donc vous faites 3 ou 4 expressi un peu serrés, vous les laissez refroidir et vous allez tremper les biscuits dans le café pour les imbiber, puis déposer les biscuits au fond du plat ou au fond des petits ramequins dans lesquels vous allez ensuite couler vos tiramisu. Par la suite, vous séparez le jaune du blanc d'un des 2 œufs que vous avez, vous montez ce blanc en neige assez serré dans lequel vous aurez mis 25 grammes, donc un tiers du sucre, vous montez ça en neige pour faire une petite meringue sucrée. Dans un batteur ou un batteur électrique, si vous en avez un, vous allez fouetter le mélange de l'œuf entier qui reste et du jaune que vous n'avez pas battu en neige, puisque c'est le jaune de l'autre œuf avec le reste du sucre. Donc l'œuf entier et le deuxième jaune avec le reste du sucre. Vous allez faire blanchir ce mélange. Vous allez voir qu'en le fouettant, le mélange va blanchir. Ensuite, vous allez ajouter progressivement le mascarpone dans ce mélange qui continue à tourner, hein, continue à être battu avec un fouet, jusqu'à ce que tout ça fasse un mélange assez homogène, comme une sorte de crème relativement homogène. Dans cette crème que vous avez obtenue, donc le mélange d'œufs et sucre et de mascarpone, vous allez ajouter votre blanc en neige que vous avez préalablement laissé de côté. Donc vous allez l'incorporer à la spatule, avec une spatule en caoutchouc, sans trop le briser, hein, laisser les choses assez aérées. Une fois que c'est prêt, vous coulez cet appareil à tiramisu sur le plat ou les ramequins au fond desquels il y a les biscuits imbibés de café. Vous mettez au frigo pendant au moins 3 ou 4 heures pour que cet ensemble prenne et que ça fasse une mousse. À la sortie du frigo, vous parsemez de cacao en poudre et vous servez, c'est tout.
Voilà les secrets du tiramisu italien.
Exactement, aussi simple que ça. La simplicité n'exclut pas les plats délicieux. C'est ça la force de la cuisine italienne et que nous essayons de restituer chez Nona.
Pour réaliser nos expressos très serrés, les 3 expressos très serrés, est-ce qu'il faut prendre un café en particulier ? On essaye de rester sur les traditions italiennes peut-être ?
Non, on essaye de prendre un café un peu corsé. Si on ne dispose pas de machine à expresso, bien sûr on peut faire un café traditionnel, café filtre. On va essayer dans ces cas-là de doser un peu plus le café filtre, parce que comme on ne met pas beaucoup de café, mais que l'opposition entre le goût du café, du cacao et cette crème mascarpone est un des secrets du tiramisu, ces oppositions de saveurs, c'est important que le café soit fort pour qu'on sente bien le goût du café.
Ouais, ne pas hésiter à venir lui mettre un petit peu de caractère, quoi.
Voilà, exactement.
Eh bien écoutez, merci à vous Simon pour tous ces précieux conseils. Rendez-vous demain pour une dernière recette. Tendance Ouest, tendanceouest.com, c'est à 12h30 tous les jours de la semaine. Et Nona, c'est sur la digue Jean Coruble à Velette-sur-Mer.
À table, la recette du chef.
On clôture notre périple italien ce midi sur Tendance Ouest. Le restaurant Nona nous accueille à Velette-sur-Mer sur la digue Jean Coruble. Simon Ferniaud, dernière recette ensemble, je vous suis. Allons-y.
Bonjour Pierre-Charles, déjà la fin de la semaine. Quel déchirement de se quitter.
Au moins tout ça, c'est vrai.
On ne va pas se quitter sans un dernier dessert très italien et très simple à réaliser, comme toutes les autres recettes de la semaine. La simplicité pour pouvoir aller au supermarché à côté de chez soi et toujours trouver tous les ingrédients dont on a besoin, rien de compliqué. Aujourd'hui, une panna cotta aux fruits rouges, panna cotta en italien, donc une crème cuite, c'est ça la panna cotta. Et donc pour faire ce dessert, là aussi des ingrédients assez normands, puisqu'il faudra pour 4 personnes ou 6 personnes, en fonction de la taille des panna cotta que nous allons réaliser, 250 ml de lait, donc un quart de litre de lait, si possible entier, 250 g de crème fraîche épaisse, si possible de la crème crue normande, puisque le goût de la panna cotta vient en partie de la qualité du lait et de la crème que nous mettons dedans, 45 g de sucre en poudre, une gousse de vanille ou de la vanille en poudre ou un extrait de vanille liquide. Moi, je conseille la gousse, c'est toujours plus authentique. Et puis, de la gélatine qu'on va pouvoir trouver soit en poudre, soit en feuilles. En général, dans le supermarché du coin, c'est en feuilles. Il faudra 6 grammes de gélatine, donc vous peserez les feuilles pour obtenir 6 grammes de gélatine. Voilà, ça, ce sont les ingrédients. Le déroulé est assez simple également, mais je vais essayer de le simplifier encore. Si vous avez de la gélatine en feuille, la première étape consiste à la faire ramollir. La gélatine en feuille est assez rigide, donc vous allez la mettre simplement dans un verre d'eau froide. Attention froide, hein, sinon elle va se dissoudre. Donc dans un verre d'eau froide et vous la laissez tremper un peu pour qu'elle se ramollisse. Dans le même temps, vous faites bouillir le lait, la crème, le sucre et la vanille, c'est-à-dire l'ensemble des autres ingrédients, ensemble dans une casserole. Quand tout cela bout, la gousse de vanille préalablement fendue pour que les graines de vanille qui sont dedans puissent communiquer avec le lait. Une fois que tout ça a bouilli, vous retirez la gousse de vanille, vous allez la racler avec un couteau et remettre tout l'intérieur de cette gousse dans le mélange, puisque c'est ça qui en fait tout le goût. Avec un fouet, vous rajoutez votre feuille de gélatine égouttée dans le mélange, et là, elle va automatiquement se dissoudre puisque le mélange est chaud. Vous allez mouler cela dans des petits ramequins ou dans un moule général. Il faut simplement, attention, la précaution, c'est de ne pas mouler trop épais, pas plus de 5-6 cm, parce que on met peu de gélatine pour que la consistance soit crémeuse et onctueuse, mais si c'est trop épais, ça va avoir du mal à prendre. Donc vous moulez pas trop épais, 5-6 cm, dans un grand plat ou dans des petits plats ou ramequins individuels. Vous mettez ça au frigo assez longtemps pour que ça prenne, en général 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain, ça va très bien comme ça. Par ailleurs, vous allez préparer un coulis de fruits rouges. Là encore, simplicité fait loi. N'importe quel fruit rouge, ce que vous préférez, de la framboise, de la fraise, du cassis, des groseilles, des mûres, rien n'est interdit. Vous les prenez frais, c'est la saison. En ce moment, pleine saison en Normandie, des groseilles, des framboises dans nos jardins, des fraises bientôt, mais vous pouvez aussi aller les acheter chez le primeur d'à côté ou en acheter des surgelés dans le magasin de surgelés d'à côté. Vous les mixez à volonté avec un petit peu d'eau et un peu de sucre. Vous sucrez comme ça vous va. Et ce coulis de fruits rouges, vous n'avez plus qu'à le servir en le coulant sur les panna cotta et manger l'un sur l'autre.
Là, ça fonctionne avec des fruits rouges. Si on veut faire un autre coulis, je pense par exemple au coulis de mangue qu'on retrouve souvent sur des panna cotta. Pareil, on prend une mangue, on la mixe et on dépose le coulis comme ça directement sur la panna cotta.
Absolument. En fonction du fruit que vous choisissez, il suffit de le diluer pour adapter la consistance. Avec des fruits plus épais comme la mangue, vous allez peut-être mettre un peu plus d'eau. Avec des fruits moins épais, ça ne sera pas nécessaire. Par exemple, vous pouvez faire un coulis. En ce moment, il y a de la rhubarbe. Vous pouvez parfaitement faire une compote de rhubarbe et mettre ça sur la panna cotta. C'est cette opposition entre la douceur du crémé, la douceur du lait et de la crème et le côté acidulé du fruit qui fait un petit peu le charme de ce dessert.
En écoutant la recette, c'est une question qui m'est venue comme ça. Est-ce qu'on pourrait peut-être un jour imaginer une panna cotta salée, par exemple, en venant ajouter peut-être un fromage à tout ce mélange à la place de la vanille, par exemple ?
Ouais, c'est une très bonne remarque. Il y a des chefs le font déjà, et absolument. Il y a même des chefs qui font des panna cotta salées avec, par exemple, une crème de foie gras ou des choses comme ça, ou quelque chose une crème à la truffe dessus. Donc oui, ça existe absolument, et c'est très bon. On peut ensuite, pour faire cette panna cotta salée, adapter des fromages frais. On peut faire à base de mascarpone. Donc, tout est permis, en fait, à partir du moment où on va adapter la consistance du fromage ou de l'appareil à crème avec le gélifiant qu'on va mettre dedans. Le plus important dans la panna cotta, c'est de mettre peu de gélifiant pour garder cette consistance juste prise et pas quelque chose de trop collé et de trop gélifié.
Bon, et l'important, hein, on l'a dit tout au long de la semaine, c'est d'utiliser des bons produits. C'est la meilleure base, en fait, hein, pour réussir ces plats.
Absolument.
Bon,
les produits font la réussite du plat.
Et en tout cas, ce qu'on va pouvoir dire, et ça on en est sûr, on s'est régalé ensemble depuis lundi. Allez-y, Nona, c'est à Velette-sur-Mer. Simon Ferniaud et son équipe vous accueillent du mercredi au dimanche. Service midi et soir. Profitez de la terrasse vue sur mer, c'est formidable. TendanceOuest.com pour trouver toutes les recettes datables cette semaine.